Domination et de fierté. Soyez de la partie. Écoutez tous les matchs à SignFM 96.7 et CFLX 95.5. Diffuseur officiel du Phoenix de Sherbrooke.
Conditions actuelles, moins 12 degrés.
À Sherbrooke, en Estrie, CFLX 95.5 FM. Pas pire pantoute.
Les vieilles chansons. Qui tourne en rond. Les vieilles chansons. Qui tourne en rond.
Ah, ces vieilles chansons qui tournent en rond. Alors, chers auditeurs et auditrices de la plus belle et de la plus grande radio communautaire et musicale en Estrie, et bien évidemment, je parle de C. Félix qui sévit sur la bande FM 95.5, une radio que vous pouvez aussi entendre, voir... en direct, grâce à cette merveilleuse technologie du web, à l'adresse suivante, soit le www.cflx.qc.ca, un site web où, je le disais, vous pouvez nous écouter en direct, voire même écouter, réécouter et réécouter vos émissions préférées grâce aux podcasts qui sont disponibles via ce fameux site internet. Pour celles et ceux qui ne m'ont pas reconnu, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et des réflexions qui est animée par votre animateur préféré un mercredi sur deux entre midi et 13h, soit Étienne Alexis qui est bouché. J'ai le bonheur de diriger les deux organismes là, qui collaborent ensemble pour produire pour vous cette émission de réflexion et d'éducation populaire, soit la Société nationale de l'Estrie et droit collectif Québec, dont la mission est de faire rayonner notre culture, notre histoire nationale, notre langue belle, mais surtout d'offrir aux citoyens, aux citoyennes un espace de débat sociopolitique, non partisan, autrement dit, d'offrir la possibilité pour les citoyens et les citoyennes de s'informer à propos des enjeux auxquels fait face la ville de Sherbrooke, la région de l'Estrie, comme le Québec de manière générale, mais à l'extérieur d'un cadre partisan qui a ses qualités, mais qui a aussi ses défauts. Alors aujourd'hui, en ce mercredi 28 janvier, on a le bonheur de recevoir à l'émission la directrice la directrice générale du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, Madame Aline Berthe, qui est avec nous en présentiel. Bonjour, Madame Berthe.
Bonjour, Étienne Alexis.
On est toujours heureux de pouvoir compter sur la présence de nos invités. Et, on a eu le bonheur de voir Madame Berthe accepter notre invitation parce qu'aujourd'hui, on avait envie de parler de la Journée internationale des énergies propres. Une journée qui est toute neuve, c'est parmi les plus récentes journées internationales. Elle existe seulement depuis 3 ans, soit depuis l'année 2023. Et si l'Assemblée générale des Nations unies a décidé d'identifier le 26 janvier comme étant une journée devant être consacrée aux énergies propres, c'est parce que ce 26 janvier est également la date de création de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, c'est-à-dire dont l'acronyme est IRENA, I-R-E-N-A, une agence intergouvernementale mondiale créée en 2009 pour soutenir les pays dans leur transition énergétique, pour servir de plateforme de coopération internationale et pour fournir des données et des analyses sur les technologies, l'innovation, les politiques et les finances, de même que les investissements en matière d'énergie propre. Si on a cru que de recevoir Mme Berthe était une bonne idée, et c'est un pari très peu risqué, on peut le dire, c'est que, dans le fond, Mme Berthe a un CV des plus touffus. Elle est détentrice d'une maîtrise en environnement à l'Université de Sofia Antipolis à Nice, en France, et elle occupe un poste de, elle a occupé un poste de chargée de projet puis de directrice dans un bureau de génie conseil en environnement près d'Avignon, une magnifique ville qui compte évidemment un certain pont plutôt populaire, mais qui est d'abord avant tout connue pour son magnifique festival de théâtre. J'ai eu le bonheur d'assister quelques jours à ce festival international de théâtre. C'est quelque chose. Alors, Mme Berthe nous a fait le bonheur de choisir le Québec pour se bâtir une nouvelle vie depuis 2005, soit depuis maintenant 20 ans. Et dès son arrivée, elle s'est rapidement impliquée dans des associations environnementales telles que le Festival Écolo de Montréal et la Fondation Rivière. Elle a travaillé durant 18 ans en mobilité durable à la direction des centres de gestion des déplacements métropolitains et comme présidente de l'Association des conseils
Centre de gestion des déplacements.
OK, extraordinaire. Je suis absolument désolé. J'avais juste un acronyme. Puis là, ben là, tu sais, je veux dire. Évidemment, très intéressée, très interpellée par les enjeux environnementaux et la mission des conseils régionaux de l'environnement. Elle fut d'abord administratrice, puis présidente du conseil régional de l'environnement de Montréal. Et suite à son déménagement dans la magnifique MRC de Quaticook, elle s'implique activement dans la région en tant que directrice du CRE. Et ce, depuis mars 2024. Alors, c'était l'introduction de cette émission qui s'annonce évidemment des plus intéressantes. Et question de vous laisser reprendre votre souffle, on va tout de suite aller à une pause musicale au cours de laquelle on aura le bonheur d'entendre la chanson intitulée « Le déni de l'évidence » du groupe Mes Aïeux.
Savoir maintenant, tout le monde sait ce que personne veut voir maintenant.
Je veux pas le savoir, tu veux pas le savoir maintenant. Tout le monde sait, mais personne veut le voir pour l'instant.
Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde sait ce qu'il nous faudrait faire maintenant.
Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde sait ce qu'il nous faudrait faire, mais pour l'instant.
On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence.
Tu veux rien devoir maintenant. Tout le monde sait qu'ils font pas leur devoir maintenant.
Je veux rien devoir, tu veux rien devoir maintenant. Tout le monde remet son devoir à demain pour l'instant.
Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant. Tout le monde sait qu'il faudra se lever maintenant.
Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant. Tout le monde sait qu'il faudra se lever, mais pour l'instant.
On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence.
Elle avance.
change la cadence pour se rendre à l'évidence. Quand on t'ensemble la danse de la dernière chance, il faut que dans les yeux s'allume le feu de la conscience. Il faut que dans les yeux renaisse le bleu de la confiance. Change la cadence pour se rendre à l'évidence. Quand on t'ensemble la danse de la dernière chance, change la cadence pour se rendre à l'évidence. Quand on t'ensemble la danse de la dernière chance, change la cadence pour se rendre à l'évidence. Le déni, le déni, le déni de l'évidence. Change la cadence pour se rendre à l'évidence. Le déni, le déni, le déni de l'évidence. Change la cadence pour se rendre à l'évidence. Le déni, le déni, le déni de l'évidence. Change la cadence pour se rendre à l'évidence.
Alors, c'était le déni de l'évidence de mes aïeux qui nous rappelle à quel point nous ne pouvons plus nier l'important impact que nous avons eu sur notre environnement, tant au niveau local, national qu'international. Et ce n'est pas pour le mieux, entendons-nous. Alors, Madame Berthe, d'abord, permettez-moi, au nom de toute l'équipe, la Société nationale de l'Estrie, de la radio CIAX, de même que de Droit collectif Québec, de vous remercier chaleureusement pour avoir accepté notre humble invitation, alors qu'on avait envie, comme je disais en introduction, là, de parler de la Journée internationale des énergies propres. Et comme on a le bonheur d'être à un médium qui nous permet d'avoir des entrevues de fond sur le, tu sais, qui dure pas 30 secondes, puis que vous n'êtes pas obligé de sortir votre propos en un clip de 10 secondes à peu près, ben si vous le permettez, on va tranquillement dresser la table pour cette entrevue. Puis ayant, bon, je suis pas un grand scientifique, je sais pas ce qu'on peut appeler un scientifique, mais j'aime quand même poser certaines affaires, dont des définitions, des concepts pour permettre aux auditeurs, aux auditrices de tranquillement cheminer vers un contenu un peu plus costaud, si je puis dire. On va commencer par le commencement. Votre organisation, le CRE, Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, là, c'est quoi cette affaire-là? Ça existe depuis quand? Sa mission? Puis un peu, est-ce que vous accepteriez là, de nous parler de ses principales réalisations? Bref, on veut tout savoir.
Ça mange quoi en hiver, un conseil régional?
Exactement! Parce que là, ce serait utile là, vers les gens, les temps qui courent, là.
Mais nous sommes 17 conseils régionaux de l'environnement au Québec.
Okay.
Donc, dans chaque région, il y en a ben, presque, pas celle du Nord encore. On a un financement pour une partie de notre mission et administration. Donc, c'est le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Il faut prendre une grande inspiration.
Il n'y a plus de développement durable?
Il n'y a plus le développement des
dedans. Ah ben,
mais okay. il faut suivre les actualités là, oui. Très, parce que ça change quand même assez régulièrement. Mais c'est ça, le nom est, fait en sorte qu'on comprend que c'est quand même le ministère de l'Environnement de base qui reste toujours. Et donc, c'est ça, il nous finance en partie pour notre mission. Sinon, on fait des projets. Et on a des missions assez équivalentes qui sont...
C'est-à-dire les différents conseils régionaux
d'environnement, qui sont vraiment de faire comme une veille sur les bonnes pratiques, qu'est-ce qui se passe en Estrie comme problématique, est-ce que tous les enjeux sont adressés, ou c'est un anglicisme, tous les enjeux sont traités par des différents partenaires en environnement. Donc nous, on est beaucoup en collaboration. On n'est pas comme en compétition avec ces organismes-là, donc on veut vraiment savoir ce que tout le monde fait, puis on va avoir une planification stratégique, chaque conseil régional d'environnement, qui va nous permettre de compléter le portrait de l'écosystème des partenaires en environnement. Et ça va faire en sorte que on va essayer de traiter chaque enjeu principal et chaque besoin. Donc nous, après avoir fait cet exercice de...
Comme ça, là, t'sais, pour le bénéfice de nos auditeurs et auditrices, là, mettons, des partenaires, on parle par exemple du COGESAF, le Comité
Exactement,
de gestion des bassins versants de la rivière Saint-François.
C'est un de nos grands partenaires.
Des différentes régies intermunicipales de gestion des déchets, des patentes de même. Là.
Exactement.
OK.
Et en fonction de ça, ce qu'on a eu comme réflexion, c'est nous d'axer nos actions surtout dans tout ce qui est milieu naturel, donc la protection des milieux naturels okay. et de la biodiversité. L'autre axe qu'on traite, c'est les changements climatiques qui incluent le verdissement et la mobilité durable. Et le troisième et dernier, c'est sur la sobriété et gestion des matières résiduelles.
Donc, okay.
On s'axe là-dessus.
Donc, consommer moins pour générer moins de déchets, puis ceux qu'on génère, ben on les gère mieux.
Et c'est sobriété au terme large, parce que dans cet axe, il y a aussi l'énergie.
OK.
Donc, pas seulement la gestion des matières résiduelles.
D'accord. Fait que avoir des lave-vaisselles intelligents qu'on peut partir à 3 heures le matin, là. À des périodes de pluie qui ne sont pas de pointe. Là.
Oui, par exemple, ça peut être une idée. Ou si on pense que la technologie peut sauver la planète, on peut en effet avoir ce type de technologie. Mais on pourrait aussi laver notre vaisselle tout seul.
Oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait chez nous.
Puis dans nos principales réalisations, en lien notamment avec le sujet d'aujourd'hui, on a eu un projet, tous les conseils régionaux de l'environnement au Québec, qui s'appelait Par notre propre énergie en 2013,
okay.
Et qui nous ont permis, ces financements gouvernementaux, de faire un portrait énergétique de la région. Donc je trouve que ça, c'est quand même une très belle réalisation, mais qui date un petit peu parce qu'il n'y avait pas encore la Haute-Yamaska et Bromissisquoi dans les MRC. Donc il aurait besoin peut-être d'être rafraîchi vu les différentes modifications qu'il y a eu physiquement, mais aussi dans le contexte actuel qui est complètement modifié.
Ben, donc, dans tous les cas, une stratégie qui date de 12 ans, elle pouvait être excellente à ce moment-là,
exactement.
Mais nécessairement, les données ont changé.
Exactement. Mais elle est encore bonne.
Oui, ah non, c'est clair. Faut jamais penser que tout ce qui nous a précédé n'est plus d'actualité. Là,
exactement.
Souvent, l'homme et la femme ont eu cette tendance là, à croire qu'il était la meilleure invention depuis le pain tranché, puis toujours à être à la fin de l'histoire. Là. Quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, là, c'était comme c'était le bout du bout. Là, puis bon, finalement, aujourd'hui, disons qu'on a évolué un peu, si on peut dire. C'est une très belle entrée en matière. Merci beaucoup. Je sais pas, là, vous avez parlé des milieux culturels. Étant maire de Stoke, évidemment, ça m'a tout de suite fait penser au magnifique projet d'acquisition du camp Sainte-Pat. Là, je sais pas si vous avez vu ça, passé ça dans l'actualité, mais la communauté de Stoke s'est mobilisée pour acheter un terrain là, de près de 200 hectares là, situé à la tête du lac de Stoke, qui est un lac très fragile, en collaboration notamment avec Nature Canton de l'Est, là, qui a acquis la majeure partie du terrain, qui permettra d'augmenter le niveau de protection de ce fragile mais magnifique plan d'eau. Donc, petit clin d'œil, quand Sainte-Pat, là, vous irez voir ça, là, c'est vraiment un beau succès citoyen et institutionnel.
Une grosse
puisque...
mobilisation citoyenne.
Ah oui, non, vraiment quelque chose
d'intéressant. Là. Bravo.
Maintenant que les foules en délire qui nous écoutent connaissent un peu mieux l'organisation que vous dirigez depuis maintenant un an et des poussières. Là,
Depuis mars 2024, j'étais en co-direction.
Ouais.
Et depuis le départ de Jacinthe Caron, je suis à la direction générale. Donc ça, c'était depuis cet été.
Bon. Est-ce que vous, depuis, dans le fond, désormais, comme les gens connaissent un peu mieux votre organisation, est-ce que vous seriez en mesure de nous en dire davantage sur cette journée du 26 janvier? T'sais, évidemment, on peut pas vraiment actuellement mesurer un éventuel effet qu'aurait eu cette journée-là, puisqu'elle est trop jeune, là, 3 ans, ce n'est pas une période de temps suffisante à mes yeux pour être à même de mesurer si une telle journée a eu un impact ou non. Mais quand même, est-ce que, selon vous, là, ce type de journée internationale ou mondiale, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que elle permet vraiment de sensibiliser les acteurs concernés envers l'enjeu promu ou ne se révèle-t-elle n'être finalement qu'une façon de se convaincre qu'on est vertueux, là, tu sais, nous avons aujourd'hui œuvré pour le développement durable ou pour les énergies propres, on a créé une journée internationale des énergies, tu sais. Est-ce que, on pourrait penser que ces impacts-là sont finalement insuffisants, sinon absents? Qu'est-ce que vous en pensez de ces journées internationales?
Alors oui, puisque je suis ici, vous m'avez invité grâce à cette journée.
Donc, ça a une petite utilité. Hein?
Et pourquoi pas faire feu de tout bois, finalement, si on est en mesure de sensibiliser plus de personnes grâce à cette excuse, j'allais dire.
Oui.
Je me suis amusée à regarder, aujourd'hui, c'était la journée internationale de quoi, puis il y avait au moins 2-3 affaires différentes. Donc, il peut y avoir des journées internationales de toutes sortes d'affaires, je pense que...
Oh, les abeilles, name it, là.
Sans Facebook, j'ai lu... Oui. En tout cas, il y a toutes sortes de... plus ou moins abracadabrantes, mais... c'est sûr que celles qui touchent à l'environnement, au Conseil régional de l'environnement, ben, pour nous, ce sont comme des excuses de parler un petit peu plus de la thématique.
Bien sûr.
Alors, oui, dans ce cadre-là, je me souviens, à Montréal, il y avait la journée en ville sans ma voiture. Bon, ça a été des blocages de rue, des actions concrètes, finalement.
Donc, les rues ne sont pas toujours bloquées à Montréal? Par les travaux?
Les embouteillages?
Ouais, c'est ça.
Mais c'est pas en ville sans ma voiture, par exemple.
Ouais.
Mais tout ça pour dire que je pense qu'elles ont une vertu, ces journées-là. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, c'est libre à nous.
Oui.
Si on en profite pour mettre des règlements, des incitatifs financiers, des choses structurantes, d'accord. Si c'est simplement de la sensibilisation, c'est bien aussi. Mais
c'est déjà quelque chose.
On va avoir des différents degrés d'impact, disons.
Très intéressant comme réponse, Madame Bergeot. Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, on va faire jouer une dernière chanson au cours de cette premier segment de l'émission. Une chanson qui, cette fois, est l'œuvre de Joe Bocan et qui a pour titre Apocalypso.
Les présidents sont réunis pour discuter de l'atmosphère. Tous les États sont désunis, on va peut-être changer l'air. Il pleut acide sur ma vie, la terre est de moins en moins ronde. Ça fait des trous dans ma folie, j'entends comme une voix qui gronde. Tous les bébés sont réunis pour réclamer leur couche d'ozone. Les journaux font de la poésie, y'a plus personne entre les ondes. Quand y'a trop d'écho dans ma vie, ça me fait perdre la raison. Je voyais des ombres dans la nuit, j'ai déclenché une explosion. Apocalypso, vivre jusqu'à la fin du monde. Mon permis, pendant qu'on préparait ma tombe.
Alors, c'était cette, mon Dieu, cette vétérante de la scène musicale québécoise, Jo Beaucan, et sa chanson Apocalypso. Je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, que vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexions, au cours de laquelle, aujourd'hui, nous avons le bonheur de discuter d'énergie propre en compagnie de Mme Aline Berthe, directrice générale du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Mme Berthe, une dernière question d'introduction, là, de définition. Qui pourrait avoir l'air un peu bête comme ça, là, mais mettons que je le suis bête, là, t'sais, un peu niaiseux, là, primaire 3, on va dire ça comme ça. Là, t'sais. De quoi parle-t-on quand on réfère à de l'énergie propre? T'sais? Est-ce que ça se résume au seul concept, par exemple, de l'absence d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui ferait donc, par exemple, de l'énergie nucléaire une énergie propre, malgré le fait qu'elle génère des déchets éternels et très polluants? Fait que, bref, c'est quoi une énergie propre pour de vrai, là?
Alors, quand on entend le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité, la géothermie ou la biomasse, ça produit de l'électricité avec peu ou pas de gaz à effet de serre. Donc, en effet, ça, c'est la partie qui était bonne.
Ouais.
Mais celle qui s'ajoute, c'est ou pas de polluants également.
Okay.
Donc, ça, c'est le petit bout à ajouter à la définition, finalement, pour comprendre le sens du mot propre, finalement.
OK. Et puis là, vous avez parlé de biomasse. Mais la biomasse comporte une forme de combustion. Est-ce que c'est biomasse couplée à des technologies limitant les émissions là, suite à la combustion ou d'emblée, de par la nature du produit, biomasse, c'est propre?
C'est une bonne question.
C'est une bonne question. Une, j'ai été à l'école.
Mais disons que ce que j'avais vu surtout comme exemple, c'est la biomasse agricole ou forestière qui, avec la vapeur ou la chaleur, ça permettait de produire l'électricité. Donc, c'est la chaleur finalement produite par la biomasse qui est récupérée pour produire de l'électricité.
Un peu comme on récupère les gaz générés par les dépotoirs. Là. Ça se fait tout seul, il faut juste comme faire avec. Là.
Exactement.
OK. Ah ben, super. Donc, autrement dit, le nucléaire, en dépit qu'il n'émet pas de gaz à effet de serre, n'est pas considéré comme une énergie propre. Là.
Ben, pas selon les définitions, en effet, scientifiques. Là.
Oui, oui. Puis on va s'en limiter à la science, si vous le voulez.
Mais c'est vrai que parfois, il est considéré comme ça parce qu'il a des faibles émissions de carbone, mais... En tout cas, après, c'est peut-être des opinions.
Oui, oui, oui.
Ou du ressenti, c'est ça.
Ben, là, tranquillement, pas vite, ça a l'air de rien, mais on a complété la mise en bouche. Là. Passons, si vous le voulez bien, au repas principal. Puis, commençons par le Québec. T'sais, mettons qu'il était souverain. Mettons, mais pas grave. Je veux dire, on isole le Québec du reste du Canada. Le Québec compterait parmi les pays... ou encore là, une province, mais ça revient au même, une entité politique, disons-le comme ça, dont la production, donc le Québec compterait parmi les entités politiques dont la production d'énergie est la plus propre, c'est-à-dire que plus de la moitié de l'énergie consommée au Québec, transport inclus, c'est important de le dire, est générée par une source d'énergie propre, soit l'hydroélectricité que vous avez nommée dans votre liste. Bref, nous serions de véritables leaders mondiaux en la matière, alors que lorsqu'on regarde des pays comme l'Allemagne, par exemple, ils se disent, ben nous, on va atteindre, mettons, des seuils de 15 à 20 % de notre énergie totale qui serait des énergies propres. Là. Et on les trouve avancés, ces gens-là. Nous, on a déjà dépassé le cap de 50. Là. Après ça, on n'est pas plus intelligent que les autres, c'est qu'on bénéficie de ressources naturelles qui ont rendu possible cette réalité-là. Mais quand même. On l'a fait. Or, on entend souvent que dans un avenir rapproché, pour le Québec, ben, notre consommation d'électricité surpassera notre capacité à la produire. D'abord, selon ce que vous savez, selon vos informations, est-ce que c'est vrai? Et si c'est le cas, est-ce que c'est réaliste de chercher à s'électrifier davantage, par exemple, maintenir, voire accentuer la transition énergétique des transports?
Alors, pour revenir sur le fait qu'on peut se péter les bretelles au Québec, là,
oui.
En effet, l'hydroélectricité, c'est l'énergie propre. Puis, j'ai parlé de l'impact des gaz à effet de serre et on parlait des polluants, mais je pense qu'il faut quand même mentionner qu'au départ, on a quand même détruit de gros territoires autochtones, tu sais, pour
Absolument.
Des territoires de chasse. On a divisé, on a aussi détruit des milieux naturels. Donc, on a beaucoup transformé ces secteurs-là. Donc, elle est propre maintenant, mais on pourrait dire que par le passé, elle a eu quand même beaucoup d'impact. Donc, en effet, de ne pas continuer à faire des barrages, vu les impacts,
ça serait une bonne idée.
Ce serait quand même une bonne idée. Quand j'étais à la Fondation Rivière, il était question de micro-centrales.
Oui.
Donc, il y a d'autres possibilités, d'autres variations probablement moins perturbantes que ce qui a été fait par le passé.
Ou encore les stations au fil de l'eau, là.
Exactement, oui. Donc, ça, c'est... maintenant que le mal est fait, profitons-en. Mais j'allais dire, profitons-en, nous, dans le sens où... c'est sûr qu'il y a des voisins qui sont intéressés à notre énergie propre.
Oui.
Et qui pourraient polluer plus que nous.
Oui.
Donc, par exemple, je sais qu'il y a des contrats qui ont été faits avec New York pour fournir New York sur plusieurs années et finalement nous rapporter de l'argent. Mais ce que ça fait, c'est que ben, on a moins d'électricité pour nous. Donc, c'est sûr que si on continue à avoir des contrats comme ça, ben, on pourrait manquer d'électricité, selon moi. Puis si on continue à avoir ben, notre train d'aller propre aux citoyens, mais c'est quand même beaucoup au niveau industriel que ça se passe, la forte consommation d'énergie. Donc,
avec les fameux centres de données, de stockage.
Exactement, donc on aurait chaque région notre centre de données, ben, ça ferait vraiment beaucoup d'énergie à produire en plus, probablement.
Ouais.
Donc pour y répondre, il faudrait beaucoup plus d'énergie, c'est sûr. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est peut-être la petite définition de la transition énergétique. C'est qu'il y a trois parties un ordre de priorisation à avoir. C'est que d'abord, il y a la sobriété énergétique. Ensuite, il y a l'efficacité énergétique. Et après, la conversion énergétique. Donc, au départ, ce qu'on veut faire, c'est réduire notre demande énergétique. Ensuite, si on la prend, ben on veut qu'elle soit efficacement utilisée.
Oui.
Et admettons qu'il faille vraiment l'utiliser, ben là, allons vers de la conversion vers des énergies propres.
Tout à fait.
Donc, je voulais juste faire ce petit rappel parce que pourquoi en avoir toujours plus ? Parce que c'est beaucoup notre façon de penser, je pense, dans notre société. Comment on fait pour croître ? Mais on n'est pas obligé non plus de toujours le voir de ce sens-là. Je pense que vous nommiez l'électrification des transports.
Ben oui, c'est ça. Est-ce que parce qu'il y a une volonté claire de la part des autorités québécoises là, de favoriser une électrification des transports. On l'a vu dans les politiques publiques, par exemple, de soutien à Lyon Électrique ou autre. Là, tu sais. Alors est-ce que cette volonté d'électrifier les transports par rapport au fait que ben vous l'avez dit, on consomme toujours plus, puis à un moment donné, puis là on va en venir là aux différentes options, mais il y a quand même un plafond là, qui sera atteint en matière de production d'énergie propre, ben, est-ce qu'on peut conjuguer les deux, tout simplement? Tu sais?
Alors, c'est sûr que si on met beaucoup plus encore de véhicules électriques, on va encore augmenter notre besoin d'électricité. La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait un objectif en 2020 au Québec d'atteindre le 300 000 véhicules électriques et on est à 407 000 véhicules électriques en 2025.
Tiens, toi!
Ce qui fait qu'on a atteint une cible. Et on l'a même surpassé.
Yes!
Il y a des cibles de gaz à effet de serre qui ont été repoussées récemment.
Moins yes!
Moins yes! Celle-ci fait en sorte que, ben, quand on recule pour mieux sauter, des fois, on recule pour mieux tomber.
Ouais!
parce que, au plus on recule, au plus ben, il va falloir réparer l'irréparable. Là, tu sais. Donc,
ouais.
Les coûts de l'inaction sont vraiment à considérer. Par rapport aux véhicules électriques, je pense que l'enjeu à traiter à la base, c'est le véhicule lui-même, dans le sens où on a eu la révolution du tout à l'auto, qui a complètement bouleversé nos aménagements, nos villes et
ouais.
notre étalement urbain. On a enlevé les voies ferrées. On a de très belles pistes cyclables au Québec, merveilleuses, mais
ouais.
avant, elles étaient pas mal plus efficace pour les déplacements d'humains et de marchandises.
Bien sûr.
Utilisés comme ça, ce qui fait que on peut mettre le plaster de dire, encore un anglicisme, un pansement, de mettre un petit pansement en mettant des véhicules électriques et continuer à avoir des gros véhicules.
Ouais.
Et continuer à aménager avec des faibles densités, et, etc. Mais selon moi, le nerf du problème vient quand même de cette base-là, de revoir nos façons d'aménager et revoir aussi la taille des véhicules et l'usage qu'on en fait pour que ce soit plus efficace. Quand on parle de refaire des routes, on parle d'investissement au Québec. Quand on parle de donner de l'argent
n'importe
pour les
quoi
transports
d'autre, on parle
collectifs,
de dépenses.
On parle de dépenses.
Exact.
Il y a vraiment à revoir le tout. Est-ce que de construire des routes ou de les entretenir et pour aller dans certains secteurs, évidemment, c'est obligatoire. Il faut desservir, mais tu sais, maintenant qu'on sait l'erreur qu'on a faite par le passé, on pourrait peut-être penser différemment, puis de profiter des schémas d'aménagement, des plans d'urbanisme, de faire des plans de mobilité qui soient cohérents et qui permettent finalement de diminuer l'usage de l'auto.
Oui.
Une fois qu'on a diminué l'usage de l'auto, ben, pourquoi pas prendre des autos électriques par le passé, les filières faisaient en sorte que... l'analyse du cycle de vie de l'auto électrique était très dommageable. Donc, il fallait aller à tous les bouts du monde là, pour construire une auto électrique.
Tout à fait.
Au bout d'un moment, ben, je pense qu'on doit arriver à quand même diminuer ce cycle de vie. Malgré tout, ben, on augmente le poids des autos, qui détruit donc plus les routes. Mmh. On pense peut-être moins à la sécurité routière aussi. Une très grosse auto électrique, finalement, elle est encore plus lourde qu'une grosse auto. Regardons comment aller vers ces trois axes dont je parlais tantôt, là, notre sobriété, diminuer nos déplacements. Si on doit le faire, le faisons-nous efficacement. Et s'il faut le convertir, pourquoi pas l'électrique ?
Ça passe toujours trop vite le temps quand on est en bonne compagnie. On est un peu en retard sur la pause commerciale, mais c'est le bonheur de la radio communautaire. Alors, si vous le voulez bien, chers auditeurs et auditrices, on va se quitter quelques instants pour cette courte pause commerciale et on vous revient tout de suite après en compagnie de Madame Berthe Aline, de son prénom, directrice générale du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie.
Il est midi.
38 minutes.
Le 5 février prochain, les 5 à 7 de l'OSS présentent Écho d'Archet, une émigration musicale du quatuor Claudel Canimex. Accompagné du journaliste Pierre Gingras, le quatuor à cordes d'Hélène Marcille ravivra un projet multidisciplinaire où la musique rencontre le monde fascinant des oiseaux. Les 5 à 7 de l'OSS, des concerts intimes, des moments privilégiés sous forme d'apéro au Centre Québécois. Une présentation du groupe Canimex et du restaurant Wesley.
Les productions Beluga s'associent au Café Baobab pour une série musicale intitulée « Découverte, auteur, compositeur, interprète » en français. Du mois de janvier au printemps prochain, venez entendre et apprécier les formations suivantes. Le 24 janvier, Chaloup. Le 7 février, La Courbure du Bleu. Le 21 février, Bubu Boisclair. Le 7 mars, Régent Turbide. Et le 21 mars, le Charlie Cliff Trio. Au Café Baobab de la rue Dunant à Sherbrooke, au coût de 15 $.
Amateurs de rock et des styles musicaux qui s'y rattachent, ne manquez pas le Rock et ses racines. Le mercredi de 16h à 18h et en reprise le jeudi de 22h à minuit, c'est le Rock et ses racines. Animé par Patrice Desmarais, c'est pas pire pantoute, sur les ondes de CFLX, la vraie radio rock en Estrie.
Une radio pas pire culturelle.
C'est Félix, 95.5 FM.
Après, je me suis perdu dans les chemins de compagnie. Peinard bas par de vue, bel job que je me suis dit. Fallait que je me sorte de là, j'ai appelé la CEPAC. J'avais du temps devant moi, c'est fait que j'ai vidé un lac. Qu'est-ce que je vois l'Indien? Pas de bonne humeur, pantoute, avec les oreilles dans le crin. Il me dit, tu détruis tout. Quand même que ça sera de ma faute, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Si c'est pas moi, c'est un autre qui va le faire à ma place. Moi, tout, je n'ai des enfants, lui laisse des beaux restants. Puis s'ils sont pas contents, le reste l'agonistan. Puis toi, toujours vivant, dis-toi que c'est mieux que rien. Puis si t'es pas content, tombe dans le doux, c'est que tu viens. J'pille, 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 ben correct, ben correct. J'pille, 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 j'sais plus quoi faire avec. Pas de problème, ski doux, si doux, quatre roues. J'suis dans le club des bains de même, des fiumes pis bain de la broue. C'est pas dans mes talents d'expliquer l'existence. Ce cerveau a deux temps, ça pense pas, ça dépense. J'suis fier d'être ignorant, pis ça c'est un droit acquis. Pas besoin d'être savant quand t'as une carte de crédit. En fait, moi j'ai deux bacs, un bac vert, un bac bleu. Un pour les faces à claque, dans l'autre pas des quêteux. Pis laisse-moi pas tout seul avec un écolo. Une coupe de claque, sa gueule, pis ça va faire de l'écho. Il t'offra pas une ronde avec ses beaux discours. Il voudra sauver le monde, il va sauver tout court. J'pille, 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 ben correct, ben correct. J'pille, 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 j'sais plus quoi faire avec. Le développement durable, c'est pour ma grosse bedaine. Puis j'suis même plus capable de me voir le bout de la graine. J'suis dans le porte-papier, ben assis sur mon cul. Puis y'en a rien à chier, la toffe de la FTQ.
Alors, vous êtes de retour à l'émission de chansons et de réflexions et vous aurez remarqué que tout de suite après la pause musicale qui soulignait la pause commerciale, pardon, qui soulignait la moitié de l'heure, je vous ai envoyé une petite chansonnette, soit l'œuvre de Richard Desjardins, un poète connu au Québec, et le nom de la chanson était Développement durable. Madame Aline Berthe, directrice générale du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, avec qui j'ai le bonheur de m'entretenir pour souligner la Journée internationale des énergies propres. On en parlait juste avant la pause commerciale là, de tout ce, du volet hydroélectrique, puis du fait en fait que le potentiel hydroélectrique, que j'oserais dire raisonnable en matière de coûts et bénéfices, semble avoir été exploité au maximum au Québec. Hein, puis ça, c'est sans compter qu'on n'avait pas conscience des dégâts générés sur d'immenses territoires là, par la construction de nos barrages. Ben, c'est quoi les options au Québec qui nous permettraient de développer d'autres sources d'énergie propre?
Je vais y aller avec l'Estrie.
Oui, ben tiens, c'est super ça.
Tant qu'à être en Estrie. J'ai pas étudié pour tout le Québec, mais ce qu'on peut dire quand même pour tout le Québec, c'est que le degré d'ensoleillement est quand même assez bon.
Oui.
Et que l'énergie solaire pourrait en effet à peu près n'importe où, à moins qu'on soit à l'ombre d'un relief ou d'un bâtiment, ouais. On pourrait quand même en bénéficier. C'est pas très développé. Puis si on veut le développer, probablement que là aussi l'analyse du cycle de vie dont je parlais tantôt, de simplement le panneau solaire, là, pourrait avoir un impact au début. Mais admettons qu'on le développerait plus, ben, on aurait des filières au Québec, ça produirait des emplois, puis probablement qu'on arriverait à l'avoir plus. Puis on a quand même des fermes, des entreprises qui développent ça aussi. Donc, pourquoi pas aller vers l'énergie solaire. Quand on parle de géothermie, ça aussi, c'est quelque chose qui est très peu connu du public.
Ouais.
Puis, à la construction, ça ne fait pas une très grosse différence. C'est sûr que les coûts sont supérieurs au début, mais on le rentabilise assez rapidement.
Et est-ce que ça garde une certaine efficacité sur le long terme, la géothermie, ou ça a tendance à diminuer en efficacité?
Habituellement, de ce que j'en ai compris, c'est qu'on le met en place, puis c'est quand même très durable.
Okay.
Donc, c'est juste un petit coup à donner au départ. Donc, il peut y avoir peut-être des incitatifs financiers, gouvernementaux qui peuvent être mis en place ou quoi, mais... je pense que ça ne s'est pas autant exploité. Donc, quand on parle de géothermie, ben, tu sais, la terre est partout. Quand on parle de solaire, ben, le soleil est partout aussi. L'éolien, le vent n'est pas partout égal.
Non.
Au Québec. En Estrie, on avait dans notre portrait énergétique en 2013 qu'on avait réalisé. Si on va sur Google, vous pouvez le lire sans problème. Là, si vous tapez portrait énergétique 2013 par notre propre énergie, c'est assez localisé quand même dans le sud, au niveau de la frontière américaine, les plus hauts potentiels éoliens et dans la MRC du granit. Probablement qu'il y a d'autres secteurs, là, c'est comme quelque chose d'assez macro dont je parle, donc peut-être que chaque MRC a fait son analyse et peut voir certains secteurs où il y a des couloirs d'intérêt. Sinon, ben, les biocarburants, la biomasse dont on parlait tantôt,
oui.
C'est aussi à vérifier, mais c'est plus, je pense, au niveau industriel que ça devrait être mis en place pour avoir des gains. Donc, c'est ça, pour faire le tour de ce qui est possible d'avoir. Au niveau éolien, comme je disais, il y a des régions probablement où l'éolien va être plus stable, c'est ça l'enjeu, là, c'est d'avoir un apport stable d'énergie. Ce qui est important, selon nous, au Conseil régional de l'environnement, bah, c'est qu'une étude soit faite au niveau... de toute la province, puis qu'on regarde c'est où qu'on va aller chercher le plus d'efficacité en implantant des éoliennes.
Oui.
Plutôt que d'y aller par à-coup, genre, oh tiens, une opportunité, tel MRC, il y a plus d'accessibilité sociale, un privé s'en vient, parle avec des élus, puis on se retrouve à regarder, à mettre des éoliennes, pourquoi pas pour quelques énergies, quelques kilowatts, mais... ça prend quelque chose d'un petit peu plus concerté et macro, selon nous, pour qu'on implante le bon projet au bon endroit, plutôt que d'y aller par opportunité.
Ben, c'est intéressant que vous parliez de ça. Nous-mêmes, à Stoke, il y a un projet potentiel de développement là, de l'énergie éolienne. Or, vous parlez de macro. La structure actuelle... encadrant le développement de l'énergie éolienne, ben induit une forme de privatisation de la production d'énergie au Québec. C'est un cadre qui a été élaboré conjointement par l'Hydro-Québec et le gouvernement du Québec. Puis, bon, on peut se questionner alors que l'économie moderne du Québec s'est développée notamment grâce à la nationalisation de notre principale source d'énergie, soit l'hydroélectricité. La privatisation de la production d'énergie, alors que l'ensemble des grandes révolutions industrielles ou économiques sont souvent calquées sur la découverte de nouvelles sources d'énergie. Autrement dit, l'énergie, la question entourant la production de l'énergie dont a besoin une communauté, une nation, des nations pour se développer, ben, c'est fondamental quant à sa capacité justement de se développer. Selon vous, la privatisation de nos énergies propres, est-ce qu'on veut vraiment aller là? Est-ce que à travers le monde ou autre, il y a d'autres types de modèles de développement qui pourraient être promus par Hydro-Québec en matière d'énergie éolienne?
Dans le monde, il y a d'autres façons, en effet, de voir. Je trouve qu'on est très chanceux au Québec d'avoir une nationalisation de l'hydroélectricité. Avec l'éolien, ben, on est en train justement d'y intégrer petit à petit la privatisation.
Ouais.
L'enjeu de la privatisation, c'est est-ce que ça va convenir au bien commun ? Donc, c'est ce que je nommais tantôt, là, de garder toujours le pas de recul.
Ouais.
Puis, quand on voit arriver un projet éolien sur nos territoires, c'est toujours, ben, OK, mais qu'est-ce qui va être fait de cette énergie-là? Est-ce qu'elle va être vendue ailleurs? Est-ce qu'elle va être utilisée pour nos propres besoins? Donc, je pense qu'il y a une très grosse sensibilité de la population à ça. On dit souvent le « jamais dans ma cour », là, mais ouais. En même temps, ça a des impacts paysagers, tu sais, quand je me mets à la place des humains, mais aussi au niveau environnemental, au niveau des couloirs de migration, par exemple, au niveau de là où va être positionné le parc éolien aussi. Est-ce que ça va endommager des secteurs qu'il faut plutôt protéger au niveau de sa biodiversité ou de sa connectivité, le fait que ce soit un milieu humide. Donc, il y a vraiment à avoir cet œil-là pour que on protège nos territoires. Puis, l'autre façon...
Faut pas que la solution soit plus impactante que le mal qu'elle désire régler. C'est
oui,
ce qu'on
c'est
comprend.
Ça. Puis, regardons le réel besoin aussi de la région.
Oui.
Et l'autre point aussi, c'est la façon de faire qui est primordiale parce que les humains qui habitent ce territoire, ben là, en Estrie, on a beaucoup de secteurs agricoles qui se font de plus en plus courtisés, j'allais dire, par les éoliennes. Donc, on nous dit aussi manger local. On ne va pas pouvoir manger local si nos champs deviennent des champs d'éoliennes. Ça ne se mange pas encore, ça, les éoliennes.
Non. Peut-être un jour, mais pour l'instant, notre estomac ne tolère pas.
Donc, il y a ce bout-là à considérer et aussi la façon d'aller consulter les populations. Je pense que c'est vraiment important que, quand on parlait d'acceptabilité sociale, qu'on aille prendre le pouls quand même de la population de la bonne façon, qu'on informe de façon transparente, qu'on y mette les moyens d'informer. Il y a des personnes qui vont être axées Internet, puis d'autres plus format papier. Il faut vraiment que tout le monde soit au courant de ce qui s'en vient et puisse avoir la chance d'aller dire son mot.
Ouais.
Et ça, c'est plus ou moins bien fait à travers le Québec en fonction de quel privé vient faire la consultation. Donc, il y a comme une harmonisation à viser pour que les gens qui voient ça arriver sachent exactement les tenants et aboutissants de qu'est-ce que ces projets-là vont faire dans leur paysage, qu'est-ce que ça va leur apporter. Des fois, il y a des projets qui permettent des surplus d'énergie qui vont permettre de mettre peut-être des fonds environnementaux de côté dans les municipalités. Il y a des municipalités très avant-gardistes qui mettent des fonds environnementaux qui leur permettent après d'avoir des projets environnementaux. Donc peut-être que ça pourrait être ça l'objectif, mais je pense que la population doit avoir la chance de se prononcer pour que ce soit fait avec transparence et pour le bien commun.
Je vous remercie énormément. C'est très intéressant. Et là, ça passe vite. 12h53 déjà. Il nous reste seulement quelques minutes, Aline, puisque vous m'avez appelé, Étienne Alexis, je me permets.
Oui.
Est-ce qu'on doit anticiper le développement, ou plutôt craindre le développement de projets de production énergétique en Estrie? T'sais, quels conseils auriez-vous pour les Estriens, pour les Estriennes qui pourraient être déchirés entre la nécessité de produire davantage d'énergie propre, pas nécessairement pour consommer plus, mais pour consommer différemment, avoir moins besoin de faire appel à des énergies telles que l'essence, par exemple, là, pour les moteurs, etc. Et leur souci de préserver leur environnement et donc leur qualité de vie. Tu sais, est-ce que selon vous, il est possible de trouver un juste équilibre qui permettrait un développement de projets énergétiques propres tout en respectant l'environnement et les communautés qui occupent le territoire?
Je pense que chaque personne qui a cette crainte-là, et puis je dirais même ceux qui ne l'ont pas, devrait vraiment se tenir informé des projets qui ont lieu sur leur municipalité, sur leur MRC. Ça nous concerne chacun d'entre nous, donc de plus s'impliquer dans les conseils municipaux, d'aller plus justement, dès qu'il y a des consultations, de se renseigner, poser des questions. C'est pas obligé d'être tout le temps contre, là, mais au moins de poser des questions. C'est quand vient le temps des élections aussi, poser des questions. Qu'est-ce que vous allez faire avec tel genre de projet? Quelle est votre vision?
Et voter en fonction de
et
ça.
Et voter en fonction de ça, prendre en considération tout à fait. Donc ça, c'est le point, je pense, qui est important à avoir. Après, ben, peut-être se poser la question à nous-mêmes, de quelle façon on peut aller vers plus de sobriété. Simplement, de calfeutrer mieux nos maisons peut faire une très grosse différence quand l'hiver approche.
Ouais.
De diminuer notre consommation énergétique. Aussi, quand vient le temps de se déplacer ou de déménager, de considérer où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on s'en va dans une municipalité qui va nous convenir à ce niveau-là? Est-ce qu'on va être situé proche de nos services de base, principaux? Est-ce que c'est bien desservi en transport alternatif pour que même nos jeunes puissent se déplacer librement et qu'on ne fasse pas le taxi à tire-larigot?
Je ne sais pas de quoi vous parlez, là. Taxi, parents, il n'y a pas de lien, me semble.
Je m'autovise. Mais c'est ça, ce sont des questions, finalement, à se poser comme individu. Et quand vient le temps de faire ces changements, on a beaucoup de stress, je pense, comme dans notre société. On vit dans des routines qui nous prennent tout notre temps, toute notre énergie, puis on met ça souvent de côté. Mais je suis compatissante avec tout le monde là-dessus. Mais je pense que des fois, il faut prendre le temps de poser les bonnes questions et de faire les gestes qui, au moins pour nous, vont réduire nos coûts. Parce que souvent, quand on réduit les coûts, ben, c'est bon pour l'environnement.
Tout à fait. C'est une belle façon de conclure cette émission. Puis quand je faisais des blagues avec vous, Aline, sur la question de voter en fonction d'eux, c'est-à-dire que l'environnement dans les différents sondages compte toujours parmi les principales priorités ou enjeux envers lesquels les gens sont préoccupés. Or, lorsqu'on leur demande la question ensuite, ben, disons, en fonction de quoi vous allez déterminer votre vote aux prochaines élections, là, souvent l'environnement est le 7, 8, 10, xème sujet, là, tu sais, là. Donc, il y a comme une différence entre l'importance que semblent accorder les gens quant à la protection de l'environnement, puis l'impact que cette conscience-là a sur leur vote, qui n'est pas toujours évidente, on va dire ça comme ça. Chers auditeurs, auditrices, cette émission tire déjà à sa fin, alors que j'avais le bonheur de recevoir Aline Berthe, directrice générale du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, pour discuter de la Journée internationale des énergies propres. Merci beaucoup d'avoir accepté notre humble invitation, Madame Berthe.
Merci beaucoup pour l'invitation, je suis honorée.
J'espère qu'on aura le plaisir de vous réinviter à nouveau, qui sait, peut-être dans le camp du Jour de la Terre, alors
avec
qu'on
plaisir.
A un bel, beau partenariat là, d'inscrits là, par rapport à une conférence qui va porter sur le recyclage, justement, comment mieux traiter, gérer nos déchets. Et un petit clin d'œil juste avant de vous quitter, la prochaine émission qui aura lieu le 11 février prochain va porter sur la Journée internationale des femmes et des filles de science. J'ai très hâte de discuter avec vous de ces femmes qui ont complètement révolutionné le domaine de la science depuis qu'on accepte qu'elles s'y intéressent, on va dire ça comme ça parce qu'il y avait de l'intérêt avant, mais les hommes avaient leur chasse gardée, savez-vous. Merci beaucoup Marie Curie d'ailleurs. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Prenez soin de vous au cours des deux prochaines semaines et c'est avec impatience que je quitte ce micro pour vous retrouver dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien. Au plaisir.
Il est midi
59 minutes.
De retour en studio après une saison très relevée, le magazine Art d'œuvre poursuit sa reconnaissance et sa promotion des arts et de la culture à Sherbrooke, en Estrie, au Québec. Des entrevues, des reportages, des clins d'œil, des chroniques et des prestations, de tout pour garnir le menu et la table. Les samedis de 13h à 15h et les mardis en rediffusion de 16h à 15h. à 18h. Parce qu'on vous aime, qui vient dîner avec moi, avec nous?